La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
Les 10 moments qui ont contribué à façonner les États-Unis. Par Étienne Augry, professeur agrégé d'histoire. 1803-1890. La conquête de l'Ouest et l'écrasement de la résistance indienne. À l'ouest des Appalaches, la faiblesse numérique des Français comme des Espagnols les oblige à davantage de souplesse dans leurs relations avec les Indiens. Ces derniers, de leur côté, voient tout l'intérêt qu'ils peuvent trouver à échanger avec les Européens. Ainsi, l'arrivée des fusils et des chevaux bouleverse les équilibres dans les grandes plaines. Des tribus comme les Sioux prennent l'ascendant sur d'autres, les Français n'hésitant pas à armer leurs alliés. En revanche, Espagnols et Anglais éviteront pendant longtemps de le faire. Dans ce vaste espace intermédiaire, ce « middle ground », pour reprendre l'expression de l'historien Richard White, les coureurs des bois, missionnaires et militaires français, assurent une présence très symbolique, prolongée au sud, à partir de la fin du XVIIe siècle, par la création de la Louisiane, fondation de la Nouvelle-Orléans en 1718. Sans l'idéaliser, il faut constater que cet espace s'est fait de compromis, de métissage, et pas seulement d'une classique acculturation coloniale. La domination progressive vers l'ouest des Anglais, puis des Américains, au nom du mythe d'une destinée manifeste, met fin à ces expériences au profit d'une colonisation qui ne laisse aux Indiens d'autre choix que l'assimilation ou la relégation aux marges. Pendant la guerre d'indépendance, ceux-ci soutiennent plutôt les Anglais, se méfiant des colons. Dès les années 1830, au mépris des traités, la plupart des tribus sont déplacées de force vers l'ouest par les autorités, c'est la piste des larmes, et progressivement cantonnées à des réserves. Dans la première moitié du 19e siècle, les États-Unis prennent possession de tous les territoires entre le Mississippi et l'océan Pacifique. Avec l'achat de la Louisiane à Napoléon en 1803, le pays double sa superficie. Ce vaste territoire reste à explorer. C'est le rôle de la mission confiée en 1804 à Lewis et Clark par le président Jefferson. La piste de l'Oregon partant de Saint-Louis devient la route des chariots transportant les migrants désireux de s'installer plus à l'ouest. Plus au sud, la guerre contre le Mexique de 1846 à 1848 permet l'acquisition définitive du Texas et de la Californie. En 1853, le territoire continental actuel est ainsi constitué. La question indienne prend une nouvelle dimension. De l'or a été découvert en Californie en 1848 et l'attrait des richesses minières comme des terres nouvelles dans l'ouest attire de nombreux habitants de l'est du pays et des Européens. Logiquement, des Indiens résistent, mais malgré la défaite cuisante du général Custer à Little Big Horn en 1876, les États-Unis imposent leur domination sur les tribus. Le massacre de Wounded Knee en 1890, dans lequel périssent plusieurs centaines de femmes et d'enfants, marque la fin des guerres indiennes.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
1861-1865, la guerre civile renforce l'unité du pays. Aux origines de la sécession et du conflit, il y a bien entendu l'esclavage, mais aussi des questions de classe, de pouvoir et de démocratie, notamment lors du débat à propos des nouveaux États, Missouri, Kansas. L'indignation morale n'est pas une généralité au Nord. Le sentiment que les esclavagistes veulent imposer leur mode de vie et que celui-ci pourrait remettre en cause les libertés publiques, y compris celles des Blancs, suffit en novembre 1860 à mobiliser les électeurs en faveur du parti républicain d'Abraham Lincoln. Les États du Sud, connaissant la version personnelle du nouveau président pour l'institution particulière qu'est l'esclavage, comprennent qu'ils ne pourront plus imposer leur vision au pays. Plusieurs d'entre eux affirment que cette victoire signe la fin de l'Union. Dès décembre, la Caroline du Sud fait sécession, rejointe par 7 autres États. La guerre éclate en avril 1861, lorsque Fort Sumter, tenu par l'armée fédérale, est bombardé par les forces sécessionnistes. La détermination du Nord à ne pas céder explique sa victoire finale. Mais si ses moyens humains et économiques sont largement supérieurs à ceux du Sud, le manque de ténacité et d'initiative des généraux nordistes empêche pendant longtemps d'exploiter cet avantage. Et puis il y a en face le général Lee, un Virginien fidèle à son État, sans être pour autant un défenseur de l'esclavage. La force de Lee, c'est d'anticiper les intentions de ses adversaires et de compenser la faiblesse numérique de ses hommes par une plus grande mobilité qui lui permet de choisir le terrain favorable. Sa stratégie est d'obliger l'Union à négocier, et donc à reconnaître les États confédérés. Il commet pourtant des erreurs, comme à Gettysburg, en juillet 1863, l'une des deux incursions sudistes au nord. Il choisit d'y lutter frontalement et subit d'énormes pertes.
Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
En novembre, Lincoln rappelle sur le lieu même de la bataille les fondements de la démocratie américaine. Dès le mois de janvier précédent, la proclamation de l'émancipation des esclaves avait marqué un point de non-retour entre les belligérants. Le début de la guerre est donc plutôt à l'avantage des sudistes, mais en 1863-1864, la situation évolue avec la prise de contrôle du Mississippi par le général Grant, qui coupe les États sécessionnistes en deux parties. Au centre, Sherman ravage Atlanta. À l'est, Grant, qui est devenu le chef des armées de l'Union, porte le danger en Virginie. Lee doit se rendre en avril 1865. La guerre civile a été une guerre totale qui a considérablement touché les civils. Pour la première fois, la conscription a été décrétée. Le conflit contribue paradoxalement à l'unité du pays, dont le nom se décline désormais au singulier. Mais à quel prix ? Plus de 600 000 Américains ont perdu la vie et les rancœurs n'ont pas disparu. La défaite de la Confédération signifie la fin de l'esclavage, mais la question de l'égalité des droits pour les Noirs est encore loin d'être résolue.
L'éléphant et Sirius Audio, vous allez voir ce que vous allez entendre.
1898-1917. Âge d'or, ère progressiste et interventionnisme. Ayant achevé sa reconstruction et assuré la maîtrise de son territoire jusqu'au Pacifique, la jeune nation entame un essor économique lié à la seconde industrialisation qui fait d'elle en quelques décennies la première puissance économique mondiale. Entre le dernier tiers du 19e siècle et la Première Guerre mondiale, les États-Unis semblent connaître leur âge d'or. Cette puissance se manifeste en particulier dans des métropoles comme New York ou Chicago. Elles incarnent la modernité et le gigantisme avec leur gratte-ciel, attirent des migrants du monde entier qui viennent travailler dans les usines dans l'espoir d'une vie meilleure. New York est ainsi la porte d'entrée de millions d'émigrés venus d'Europe. Irlandais, Allemands, Polonais, Juifs d'Europe centrale, Italiens ou Scandinaves, près de 30 millions de personnes de 1865 à 1918. Passé par le filtre d'Ellis Island, ouvert en 1892, il s'installe dans des quartiers où il se retrouve entre compatriotes. Les difficultés sont nombreuses, mais en une ou deux générations, l'intégration est possible. Chicago accueille pour le quatrième centenaire du voyage de Christophe Colomb en 1892 une exposition colombienne où se manifeste la croissance spectaculaire de la ville qui sert d'interface entre la côte est et les grandes plaines, d'où viennent les animaux tués dans les abattoirs de la cité. Ce sont ces mêmes abattoirs qui inspirent à Henry Ford l'idée du travail à la chaîne pour son usine près de Détroit, au début du XXe siècle. L'envers du décor de cet âge d'or est fait de pauvreté, d'inégalité, de conditions de travail très dures, de corruption, de clientélisme, de violence. Dans la dernière décennie du 19e siècle, nombreux sont les Américains qui prennent conscience de la nécessité d'une réforme de la société et de l'administration.
Le savoir s'écoute sur Sirius Audio.
Ce progressisme moral, qui a le plus souvent des fondements religieux, aboutit à l'adoption de lois de régulation, lois antitrust, et à l'essor de la philanthropie des plus riches. Il entraîne également la prohibition de l'alcool, appliquée en 1920. En lien avec cette croissance économique sans précédent, le pays s'affirme dans ses relations avec le monde. Dans la lignée de la doctrine affichée par le président James Monroe dès 1823, les États-Unis imposent leur volonté au reste du continent américain. La victoire contre l'Espagne en 1898 leur permet de changer de statut. Ils contrôlent désormais des territoires outre-mer, Cuba, Porto Rico, les Philippines, Hawaï, et se lancent dans la construction du canal de Panama, qui sera achevé en 1914. Leur interventionnisme devient régulier à partir de 1898 et aboutit à leur entrée en guerre en 1917 aux côtés de l'entente contre les puissances centrales. La récurrence des conflits aboutit à un renforcement des pouvoirs de l'État fédéral sur la population, notamment de sa branche exécutive.
La culture générale, c'est Sirius Audio et l'éléphant.
1933-1965. Une Amérique pour tous? La lutte contre les inégalités sociales et raciales entre dans une nouvelle phase à partir des années 1930. L'ampleur de la dépression économique oblige à une profonde remise en question du modèle économique et social des États-Unis. Si le capitalisme n'est pas remis en cause dans ses fondements, le président démocrate Franklin Roosevelt, à partir de 1933, contribue à sa transformation. Ce New Deal, cette nouvelle donne, accorde à l'État fédéral un rôle important dans la régulation et la relance dans l'activité économique, inspiré des idées de Keynes. Le New Deal impose une régulation publique aux intérêts privés, non sans résistance, y compris de la part des États. Mais ceux-ci se voient confier une partie des ressources mobilisées. Cependant, c'est l'entrée en guerre en 1941 qui relance véritablement la production. Ce consensus social-démocrate se poursuit dans le cadre de la guerre froide jusqu'à la fin des années 1970. Lyndon Johnson, successeur de John Kennedy en 1963, développe son projet de Great Society, devant permettre l'inclusion des plus pauvres, en particulier les personnes âgées. Dans le même temps, 100 ans après la guerre de sécession, des changements profonds aboutissent à la remise en question des inégalités juridiques et sociales entre blancs et noirs. En effet, la reconstruction n'a pas permis l'intégration des noirs dans l'ordre social et politique. Au Sud, d'innombrables règles, surnommées lois Jim Crow, maintiennent les anciens esclaves dans une infériorité permanente, sous la menace des lynchages et du Ku Klux Klan, et une ségrégation dans tous les aspects de la vie.
Le savoir par l'éléphant s'écoute sur Sirius Audio.
Au Nord, cette séparation n'est pas inscrite dans la loi, mais existe de fait, en particulier dans les grandes villes qu'ont gagné en masse les Noirs au début du XXe siècle. Les années 1950-1960 constituent là aussi des années de changement puisqu'un vaste mouvement en faveur des droits civiques prend forme autour des luttes non violentes initiées par Martin Luther King dans le Sud après l'arrestation de Rosa Parks en 1955.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Le discours du pasteur en 1963 est le temps fort de ce mouvement qui aboutit à une série de décisions de la Cour suprême et de lois votées par le Congrès interdisant en droit la ségrégation et toute discrimination liée à la couleur de peau. Les Noirs, que l'on appellera par la suite Afro-Américains, ont désormais accès à tous les lieux publics, à l'éducation, au droit de vote et au logement. Une affirmative action, discrimination positive, doit même permettre, à partir de 1965, de compenser les injustices du passé et de leur ouvrir l'accès à l'université. Les années 1960 sont aussi un tournant dans la politique migratoire. En 1965, la loi sur les quotas de 1924 est abolie. À partir de cette date, l'immigration se diversifie considérablement, ce qui aboutit à une société de plus en plus multiculturelle, en particulier dans les grandes villes et dans certains États comme la Californie. À partir des années 2000, les Hispaniques sont plus nombreux que les Afro-Américains. Si l'évolution actuelle se poursuit, la population états-unienne ne sera plus majoritairement blanche d'ici quelques décennies.
Retrouvez tous nos podcasts sur notre site serious.audio.